Moi, ça me fait plaisir d'entendre les jeunes parler comme ça, de les voir s'exprimer déjà d'une part, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais moi, je suis timide, je ne vais pas oser venir sur l'estrade, je ne vais pas oser prendre le micro, parler. Et quand on voit certains qui ont encore un petit bafouillage, mais qui s'expriment, qui disent, voilà, bah, Dieu, il m'a donné, oh, Dieu, il m'a donné une image, je ne savais pas quoi en faire, ou je trouve ça beau. Parce que les jeunes, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Tout comme les vieux, on va les appeler les vieux, je me considère comme un vieux, hein Fred? Les mi-vieux, bon, c'est pas parce que j'ai plus de cheveux, hein, c'est parce que je les coupe court. Mais, pardon? J'ai de bons ciseaux, ouais, ça s'appelle une tondeuse, un petit appareil. Enfin, bon, bref. Mais je trouve que c'est beau de pouvoir comme ça avancer, on avance. Et bien souvent, quand on est au bord d'une piscine, eh bien, alors si on considère que le bord, il est là, je vais tremper le bout de mon pied. Oh, elle est froide, hein. Et je vais avoir du mal à me mettre dedans, parce que dans ma tête, l'eau est froide. Mais la présence de Dieu, elle n'est pas froide. Et il faut savoir prendre le cran de soit on plonge d'un coup et on se lance, soit on y va progressivement. Alors, il y en a qui vont mettre le bout du pied, la cheville, la jambe, etc. Quand on arrive à la taille, ça commence à être un petit peu. Mais l'eau est chaude. Et il faut pouvoir aller jusqu'à ce qu'on n'ait plus pied. Et pouvoir vraiment baigner dans la présence de Dieu. Donc moi, les jeunes, je vous encourage réellement à pouvoir partager ce que vous recevez, parce que c'est précieux pour nous aussi, les vieux. C'est toi qui as dit les vieux. On a le même âge. Qui c'est? Oui, c'est ouais, Samuel. Il n'est pas là. L'autre fois, il a envoyé un SMS. Samuel, il dit, ouais, je sais plus comment, mais Fred, le jeune, il met entre parenthèses. On a le même âge. On a le même âge, on a 6 mois de différence. Je suis du mois de décembre, il est du mois de mai. Mais. Eh, c'est marrant, on n'a même pas 5 mois de différence. Allez. Donc, sachez que Fred et Fred, nous avons le même âge. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Aujourd'hui, moi, tout ce qu'on a pu entendre ce matin, tout ce qu'on a vécu, ce que les jeunes ont partagé, eh bien, moi, ça me fait plaisir parce que j'avais à cœur mon thème ce matin, c'est persévère dans ta vision. Persévère dans ta vision. Et je pense que ça, c'est un point qui est important parce que il faut qu'on ait une vision. Il faut qu'on persévère. Non seulement qu'on persévère, mais qu'on ait une vision. Alors, il y en a certains qui vont dire, bah, il a triché, il a regardé sur son bracelet. C'est vrai que je porte un bracelet où c'est marqué vision dessus. Et derrière, c'est marqué toutes choses sont possibles. C'est écrit en anglais, mais c'est toujours pareil. Ça a la même signification. Même si l'anglais n'est pas une langue. Mais voilà. Mais c'est important. Je pense que là, au niveau de la vision, on se doit de pouvoir persévérer dedans. Ce matin, Fred disait, Arnaud, il a une vision, il a quelque chose, il a un désir, il a un souhait dans son cœur, c'est une vision, il veut qu'on se regroupe parce qu'il sait que ça peut avoir quelque chose de bénéfique pour notre Église. La vision est quelque chose qui, pour moi, est important. Mais cette vision, elle doit être, et on va le voir, elle doit être à la fois individuelle, elle doit être dans ton couple, dans ta famille, mais elle doit être aussi la vision de l'Église. Et je pense qu'il est important également de pouvoir faire la distinction entre une promesse ou les promesses. Il est important de faire la différence aussi avec le commandement, les commandements, et puis la vision. Ce sont trois points qui sont bien distincts l'un de l'autre. Les promesses, eh bien, il y en a pas mal. Je vais en lire simplement deux. Jean 14, 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est une superbe promesse. Jésus nous dit, mais allez-y, demandez. Et si vous c'est en accord avec ce que moi j'ai envie, je vous le donnerai. Les jeunes, et ce que disait Alex tout à l'heure, ils ont fait des petits groupes de quatre, ils ont dit, bah vas-y, commence à prophétiser sur l'autre. Oh, c'est chaud hein, quand même. Hein. On se dit, mais attends, si je lui dis une bêtise, quoi, si c'est vraiment moi, ou si c'est Dieu, si. Non, vas-y, lance-toi. Lance-toi. Un jour, la première fois que j'ai donné une parole de connaissance à quelqu'un, c'était il y a une dizaine d'années. On a justement eu une convention où on nous a appris à écouter la parole de Dieu. C'était en Normandie. Et puis, boum, je reçois dans mon cœur, il y a quelqu'un qui est sourd d'une oreille droite. Oh, qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Et j'ai dit, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je fais de cette parole? Et je l'ai gardée pour moi. Et puis, il y a quelqu'un derrière qui s'est levé, qui est allé au micro, et il dit, voilà, il y a ici une personne qui est sourde de l'oreille droite. Exactement la parole que je venais d'avoir. Et là, j'ai dit, pardon, Seigneur, pardon. Et donc je me suis levé, j'ai pris le courage, j'ai pris mon courage et je suis allé devant et j'ai dit voilà, je confirme cette parole, j'ai reçu la même. Il faut confirmer, c'est bien d'avoir des confirmations. Mais il faut pouvoir, et là, la promesse, elle est nickel pour ça. Elle dit, voilà, vas-y, jette-toi, la piscine, elle est chaude. Tu penses dans ta tête qu'elle est froide, mais elle est chaude, cette piscine. L'eau est chaude, vas-y, plonge. Et c'est pour ça que la vision de l'Église, allez-y, jetez-vous dedans, jetez-vous dedans. On a besoin de vous. On a besoin, l'Église a besoin de nous, elle a besoin de moi. Une autre promesse, Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous laisse ma paix. Demandez-la la paix quand vous êtes troublé, quand vous avez des circonstances de la vie qui font qu'on a l'impression que Dieu s'éloigne, mais non, Dieu ne s'éloigne pas, parce que Dieu laisse la paix. Ça, pour moi, ce sont deux belles promesses. Alors après, il y a les commandements. La distinction entre les trois est bien importante. Les commandements, un exemple, 1 Jean 2, 3 et 4. « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. » C'est cache aussi. Dieu a pour nous des promesses qui sont magnifiques. La première que j'ai lue est vraiment somptueuse pour moi. Mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est-à-dire que Dieu dit, voilà, si tu n'obéis pas à mes commandements, t'es un menteur. Donc là aussi, un autre point, les promesses, le commandement, les commandements. Jean 13, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On a eu trop tendance à le mettre en commandement 1, celui-là, c'est le commandement 2. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, etc. » Donc voilà, ça c'est vraiment la distinction. Je ne vais pas m'attarder plus sur les promesses et les commandements, parce qu'ils sont là. La Bible en est remplie, on doit rentrer dedans, dans des promesses. Et vraiment, moi, mon cœur se réjouit, parce que ce que j'ai entendu des jeunes là, alors quand tu dis Chanel, on n'était que 14, entre 14 et 16. Et on est combien ici? 14 et 16, ça fait 10%. 10% de jeunes. Et la vision, les jeunes ont une vision, pour être beaucoup plus. Et moi je dis amen. Une vision comme ça, c'est que les jeunes ont un cœur pour Dieu, et ils ont envie que Dieu avance. Enfin, pas que Dieu avance, mais ils ont envie d'avancer en Dieu, et ils ont vraiment envie de voir l'action de Dieu. Et ce week-end qu'ils sont passés, on pourrait dire, oui, mais les jeunes, ils sont à part. Non, ce n'est pas une église dans l'église, les jeunes. Ils font partie de l'église. Et ça, c'est important. Et c'est ce que je dis aussi aux jeunes, ne faites pas un club dans l'église, pas un club de jeunes. Mais que ce soit vraiment le groupe de jeunes, même qui puisse nous tirer vers le haut. Parce que les jeunes sont là, et ils sont aussi l'essence qu'on met dans la voiture. Parce que l'Église a besoin d'une essence, de l'essence. Après, à chacun de pouvoir entrer dans sa vision et de vraiment regarder chacun comme quelqu'un qui va les tirer vers le haut. J'ai eu l'occasion la semaine dernière, vous savez que j'étais à Mulhouse, nous étions 5, ouais, de 5, 6 même, et j'ai eu l'occasion de parler avec Samuel Peter Schmidt, puisqu'il nous a fait visiter le chantier de l'église, de l'agrandissement de l'église. C'est somptueux. Moi, quand je vois ça, je dis, mais avec Claudio, on rêvait. Hein, les vieillards auront des songes. Donc avec Claudio, on rêvait. Parce que Claudio est bientôt papa, donc tu vas devenir un vieillard comme tous les autres. Et avec Claudio, on rêvait de voir ce chantier-là. Et Samuel nous parlait et disait, mais si vous saviez tous les bâtons dans les roues qu'on a eus. Et malgré ça, ils ont une vision. Ils ont une vision et ils l'ont tenue. Ils se sont dit, la vision de l'Église, c'est ça, c'est l'agrandissement de l'Église. Et on va y aller, droit devant. Peu importe ce qu'on va nous dire dans le monde. Et je peux vous assurer que tout ce que nous a dit Samuel, à chaque fois, ils avaient des bâtons dans les roues. Même des mecs qui sont dans la commission pour pouvoir valider le nouveau procédé qu'ils utilisent. Hein, c'est un mixte bois-béton. Et le mec, il a dit à Samuel, moi, si j'étais vous, je reprendrais l'argent et j'enlèverais la demande parce que ça ne va jamais être accepté. Et puis Samuel s'est rendu compte après que ce mec-là était dans la commission et que déjà, lui, il allait mettre des bâtons dans les roues. Manque de peau, Dieu n'a pas permis qu'il soit là le jour de la commission. Donc j'ai ramené la newsletter, donc vous avez vu un peu la newsletter de Mulhouse, c'est carrément un bouquin, c'est bientôt à Lille on aura ça, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense qu'on a, un grand Dieu, ouais, d'ailleurs j'ai qu'un amen. Samuel Peter Schmidt. Le projet qu'ils ont, la vision qu'ils ont pour l'agrandissement de l'église, rien que pour ça, ça coûte 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Et lorsque j'ai entendu ou écouté ce que disait Samuel, eh bien, je voyais quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui disait, voilà, moi, eh bien, Dieu m'a donné cette vision et on n'en a pas démordu. Et comment elle est partie, cette vision? Tout simplement parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui lui a envoyé un chèque de 10 000 euros Et il lui a dit, pour l'agrandissement de l'Église. Et à cette époque-là, il n'y avait même pas de projet d'agrandissement d'Église. Et c'est comme ça que c'est parti. Il y a quelqu'un qui a envoyé 10 000 euros d'offrande, et il a dit, pour l'agrandissement de l'Église. Après, ils ont reçu 4 lingots d'or dans des sacs poubelles. 2 dames allemandes. Ils ont envoyé 4 lingots d'or. Chers amis, quelle joie de vous retrouver, être témoin et le fil conducteur de la newsletter que vous êtes en train de découvrir. Un témoin est une personne qui a vu ou entendu un fait ou un événement et qui est donc en mesure de confirmer sa réalité. Permettez-moi quelques lignes de vous partager un témoignage récent concernant l'église de la Porte Ouverte. Après un arrêt de chantier et une attente prolongée de 2 ans et demi, j'ai la joie et le privilège de vous annoncer la reprise des travaux permettant l'achèvement de l'agrandissement de l'église. Amen. C'est un super projet, c'est magnifique, c'est somptueux. Rien que la croix qu'ils vont mettre devant là, elle est arrivée en convoi exceptionnel. Et il y avait les cathos qui étaient à côté et qui disaient « mais ils se font encore remarquer à l'église de Mulhouse ». Et Samuel, il se marrait parce qu'il connaît le curé. Et le curé lui disait, mais tu t'es encore fait remarquer avec ta croix. Il dit, oui, mais moi, c'est une croix que j'ai ramenée. Toi, t'as ramené des cloches. Et c'est vrai. L'église d'à côté, l'église catholique, ils ont fait venir un convoi exceptionnel pour ramener des cloches. Eux, ils ont ramené une croix. C'est beau. Humainement, il n'y avait pas d'issue possible. Mais ce que Dieu dit, il l'accomplit. Le psalmiste dit de l'Éternel, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Croyez dans votre vision, croyez-y à votre vision. Si Dieu vous a donné une vision, si Dieu vous a donné un plan, si Dieu vous a dit, voilà, moi ce que j'attends de toi, c'est ça, eh bien accroche-toi à ça. Gaël, je ne sais pas où elle est Gaël, là, vas-y, accroche-toi. Si Dieu t'a montré ta voie, vas-y, fonce. Dieu sera là. Les temps seront peut-être difficiles à certains moments où tu diras, mais Dieu, tu m'as dit ça, où t'es? Mais Dieu, il a un œil sur toi, il aura un œil sur toi. Amen. Donc faut pas que tu lâches ça. Je suis témoin avec mes collaborateurs de la fidélité de Dieu. Les spécialistes, au vu de la raison de l'arrêt du chantier, avaient fixé notre sort en affirmant que nous n'obtiendrions jamais les validations nécessaires. Et l'un d'eux me conseillait même de demander le permis de démolir ce qui venait d'être construit. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour son intervention. Le chantier peut continuer et sera achevé fin 2013, début 2014. Bon, je ne vais pas continuer, hein, je pourrais... Voilà, ça c'est une vision, c'est la vision de l'Église. Et ça, c'est important, c'est le troisième point. Il faut qu'on puisse rentrer dans la vision. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos frères auront des songes. Moi, je me plais à rêver. Pascaline m'a dit, mais t'as tout le temps des trucs, t'es tout le temps en train de rêver. Effectivement, j'aime rêver. Souvent, avec Antoine, on se réunit, on mange assez régulièrement ensemble en semaine. Et même avec Fred, on rêve ensemble. J'aime rêver. J'aime me dire, voilà, Dieu, eh bien, t'es toujours vivant, t'es un grand Dieu. Pour toi, rien n'est impossible. Et la vision que tu nous donnes, tu vas l'accomplir. Forcément, tu vas l'accomplir. Parce qu'il est dit qu'on aura des songes, on aura des visions. On aura des visions. On aura des visions pour pouvoir faire en sorte que ton règne avance. Et ça, il faut qu'on puisse garder ça en tête. C'est que Dieu souhaite que vous ayez des projets pour Dieu. Hébreux 11, 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alors ce verset, vous allez dire, bah oui, maintenant Fred, tu viens nous dire que juste avant, on va avoir des visions, qu'on va avoir l'accomplissement. Oui, mais c'est là le thème de mon prêche. Persévérez dans vos visions. Parce que la persévérance vous permettra d'entrer dans vos visions. Bien souvent, on a le défaut en tant qu'humain de dire « baisse les bras, j'en ai marre ». On peut, on est tous humains ici, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On peut très bien avoir des moments de doute, des moments de blues, où on dit « mais Seigneur, j'en peux plus là, tu m'as promis quelque chose et ça ne va pas ». Il faut tout de suite pouvoir se ressaisir, pouvoir dire, Seigneur, je sais que j'ai une vision pour toi, et aller voir vos frères et sœurs, parce que vos frères et sœurs sont là pour vous encourager. Dire, voilà, le Seigneur m'a dit que, dans ma vie, il voulait ça pour moi. Aujourd'hui, j'ai un coup de blues, prie pour moi, encourage-moi. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert. Ils ne sont pas rentrés tout de suite dans la terre promise. Parce qu'il y a eu des doutes, il y a eu dans le peuple des personnes qui ont râlé contre Dieu, qui se plaignaient tout le temps. Et Dieu a permis qu'ils puissent tourner. Ils ne sont pas rentrés dans leur vision. Dieu leur avait donné une terre promise. Ils ne sont pas rentrés dedans et ils ont tourné. Ça veut dire que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Donc on se doit aujourd'hui de pouvoir persévérer dans les visions que Dieu vous donne. Est-ce que aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Marcel Lebousier. Marcel Lebousier, c'est juste derrière, je vais zapper ça, c'est lui Marcel Lebousier. Marcel Lebousier, comme vous le savez, un bousier, c'est un coléoptère. Et alors, c'est une image qui est un peu, peut-être indélicate, peut-être que ça va vous choquer ou peut-être que ça va vous remuer, tant mieux. Le bousier, il est là pour se faire des boules d'excréments. Il se fait des boules d'excréments, il les roule, il fait en sorte qu'elles soient bien tassées pour pouvoir lui-même la rouler et l'emmener plus loin pour la bouffer. Il va manger sa petite boule, voilà. D'accord? Il fait des boulettes. D'accord? Et en fait, trop souvent, j'ai tendance à dire que certains chrétiens, eh bien, ils sont là pour pousser leur merde. C'est vrai. Ils sont là parce qu'ils ont des boules. Mais moi, j'aimerais avoir l'image inverse. Vous savez quoi? Cet insecte est le plus fort des insectes. Il est capable de pousser 1121 fois son poids. Ça veut dire que si ici on avait quelqu'un d'1m70, eh bien cette personne d'1m70 serait capable de soulever 6 bus pleins. Le coléoptère, il est là, il a une vision bien nette. C'est qu'il doit continuer dans sa marche. Il doit continuer dans sa marche et il a une force en lui. Cette force en lui, elle est là pour dire, voilà, moi j'ai cette force de pouvoir façonner et pousser ma vision, être là comme ça, et de pouvoir aller là où je dois aller. Et non seulement ça, mais on s'est rendu compte que sur des études scientifiques, ce coléoptère, il a un GPS intégré. Il se repère à la Voie lactée. Ils ont fait des études, ils se sont rendu compte que quand ils le mettent même dans une pièce où ils font un simili de Voie lactée, avec la luminescence, etc., ils se sont rendu compte que le petit coléoptère, eh bien, il mettait moins de temps à promener sa boule d'un endroit A à un endroit B. Ce coléoptère, il a une vision bien nette, bien précise, et j'aurais tendance à dire qu'on pourrait très bien se mettre à la place de ce coléoptère, en occultant vraiment l'aspect excrément de ce qui pousse. D'accord ? Mais je pense, moi, qu'en tant que chrétien, Dieu va nous donner une vision, et cette vision, on est là pour pouvoir la pousser. Des fois, on est fatigué, on a la force nécessaire, et Dieu nous donne la force nécessaire pour pousser cette vision, pour pouvoir aller, et pour pouvoir rentrer dedans, et pouvoir emmener cette vision là où Dieu veut qu'on l'emmène. Et pour ça, il faut de la persévérance. Mais non seulement ça, mais nous, en tant que chrétiens, on a aussi le GPS intégré. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Et donc, Marcel le coléoptère, c'est chacun de nous. Marcel le bousier. J'aurais pu l'appeler René, ça aurait rimé, René le bousier. Ça serait bon. L'image est un peu crue, je le conçois, mais c'est vrai que ce coléoptère, eh bien, peut apporter plusieurs messages. Le message de dire, ok, persévère. Persévère parce que tu as une vision, parce que tu as un projet dans ta vie. Et Dieu veut que tu amènes au bout cette vision, veut que tu ailles au bout du bout de cette vision, pour pouvoir rentrer dans ta vision. Et non pas comme être le peuple d'Israël qui a tourné. Et ils ont vécu dans la foi, effectivement, ils ont vécu dans la foi, puisque Dieu les nourrissait dans le désert. Mais ils ne sont jamais rentrés dans leur vision. Parce qu'il y a eu ce manque de courage ou ce manque de croyance en Dieu. Je vais revenir ici. Ce sont les différents points par rapport à la vision. Ces points sont importants parce que des fois, on va avoir Dieu qui va nous parler. Ou pas. Parce que j'ai aussi vu des personnes qui me disent encore aujourd'hui, mais ben, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Dieu ne me dit pas où je vais. Il ne me dit pas ce qu'il attend de moi. Et ça, c'est le premier point, c'est connaître sa vision. On se doit, chacun ici, de pouvoir se placer devant Dieu et dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour ma vie ?» Vendredi après-midi, avec Pascaline, nous étions à un mariage. On a notre nièce qui se mariait. Et j'ai parlé avec certaines personnes et c'est vrai que très rapidement, dans leur langage, on se rend compte que ils aiment la fête. Ils aiment la fête et ils disent « La vie est trop courte, il faut qu'on en profite. La vie est courte, il faut qu'on profite. » Ils sont au bout du couloir, au fond. Et GPS intégré, c'est moi. Ils sont où les toilettes? Vous imaginez ceux qui vont écouter le message en audio après? Sympa le phare. Et donc ces personnes qui faisaient la fête, on aurait envie de leur dire, mais bon sang, c'est quoi ton objectif? Et j'avais cette peine lorsque j'en écoutais certains. Je me disais, mais ils n'ont aucun but dans la vie. Pour eux, la vie, c'est elle s'arrête à la mort et après la mort, point. Ça veut dire qu'ils veulent profiter au maximum de leur vie. Et aujourd'hui, eh bien, moi, j'ai cette espérance. Je sais que Dieu attend quelque chose de moi, un travail bien particulier. Et j'ai cette espérance où je me dis que je vais avoir un travail sur terre pour pouvoir éventuellement parler à ces personnes-là. Mais en plus, mon espérance, elle va au-delà de la mort. Parce que pour moi, la mort, c'est le début de la vie. Vous êtes d'accord avec ça? La mort, c'est le début de la vie. Donc, il faut aujourd'hui que chacun ici, on puisse connaître notre vision. Il faut qu'on puisse savoir ce que Dieu attend de nous. Si vous ne connaissez pas votre vision et que pour le moment, vous êtes dans l'église ici, au phare, parce que des fois, Dieu pourrait très bien vous dire, mais attends, je t'appelle à partir en Afrique. Et puis, voilà, tu pars en mission en Afrique, mais Dieu ne te donne pas le temps. Ça, c'est le point que je vais aborder juste après, ou un petit peu en dessous. Mais Dieu ne t'a pas dit, tu pars, allez, dans les 5 minutes, là, il faut que tu aies déjà ton billet d'avion dans la poche, parce que tu pars maintenant. Ça pourrait. Mais si Dieu ne te donne pas le temps dans lequel tu vas rentrer dans ta vision, eh bien, de toute façon, tu as déjà la vision de l'église. Tu es dans ton église, bosse pour ton église. Parce que notre église ici, elle a une vision qui est bien particulière. Elle a une vision qui est bien tracée. Bientôt, on va l'afficher. Ou elle est déjà affichée, je crois, dans le hall. Non, elle a été enlevée. Et je crois qu'Antoine a le projet de l'afficher là-bas. Mais toujours, même si ta vision que Dieu t'a donnée ou ne t'a pas encore donnée, sache qu'il y aura toujours une vision qui, dans l'immédiat, à laquelle tu pourras adhérer. Et en l'occurrence, celle de l'église. Si tu es appelé à travailler dans cette église, adhère à la vision et bosse. Travaille pour Dieu, parce que c'est là que Dieu va pouvoir agir en toi et te faire grandir. Le deuxième point, c'est accepter sa vision. Je vais reprendre l'exemple de mon frère, que vous avez vu l'autre jour, là, qui est venu. Lorsque Dieu l'a appelé à devenir pasteur, il a dit non. Il a dit non, c'est pas pour moi, ça. Et sa femme a pleuré pendant 2 jours. Sarah a pleuré pendant 2 jours. Parce que jamais, jamais, il aurait s'imaginé ne serait-ce qu'une seconde, être pasteur d'une église. Et il a refusé. Et ça s'est fait petit à petit. Ça s'est fait petit à petit. Et aujourd'hui, quand on voit le travail qu'ils accomplissent là-bas dans leur église en Normandie, c'est magnifique. Ils ont une œuvre qui se fait et qui est là parce qu'il a dit « Ok Seigneur, j'adhère à ta vision. J'adhère à ta vision, j'accepte cette vision. » Et cette vision, pour ça, il faut la graver dans son cœur. À partir du moment où vous allez accepter votre vision, où vous allez accepter les plans de Dieu dans votre vie, eh bien, vous allez devoir la graver dans votre cœur, chérir cette vision. Comme une femme porte un enfant, ou elle chérit cet enfant, bien souvent, on voit les femmes qui mettent les mains sur leur ventre, qui se grattent le ventre, c'est rigolo, et elles chérissent l'enfant qu'elles portent. Une vision, c'est pareil. Dieu veut que l'on puisse chérir cette vision pour pouvoir rentrer dedans, avoir cette persévérance et de pouvoir dire, voilà, moi, je vais rentrer dans ma vision, la graver dans son cœur. Peut-être pas forcément la dire à tout le monde, ou alors la dire à tout le monde, comme vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'être encouragé par rapport à cette vision, parce que des fois, on peut très bien avoir une vision, on dit, mais ça c'est mon esprit, c'est ma tête, c'est moi, c'est l'esprit charnel qui me dit de faire ça, et c'est pas de Dieu. Et il y aura une lutte, déjà, qui se fera, mais Dieu va permettre. Dieu va permettre que tu puisses rentrer dans cette vision. Et donc ça, il va la graver dans ton cœur. Mon frère me partageait l'autre jour qu'ils ont réuni certaines personnes comme ça dans l'église et ils leur ont demandé leur vision. Ils étaient deux. Mon frère travaille avec Victor, qui est un prophète. Donc Victor a eu à cœur de regrouper des personnes bien précises dans l'église. Et ils leur ont dit, c'est quoi ta vision? Et mon frère a été estomaqué d'entendre certaines choses dans la bouche, sans vouloir juger, nullement. Il me dit, mais les visions que ces personnes avaient étaient des visions qui étaient charnelles. Voilà, ils ont envie de faire ça, ils se disent, tiens, ce serait pas mal. Et en fait, eh bien, la vision n'était pas clairement établie. Ça veut dire que mon frère est rentré dans un processus pour aider ces personnes à chercher ou à rentrer dans leur vision. Et Victor leur a bien dit, voilà, pour l'instant, ta vision, elle n'est pas clairement définie. Eh bien, adhère à la vision de l'Église. Travaille aussi dans la vision de l'Église. Toi, tu vas chercher ta vision personnelle au fur et à mesure du temps, mais pour l'instant, tu es dans l'Église de Bernay, eh bien, tu travailles à la vision de l'Église. Est-ce que ça va jusque-là? Se soumettre au temps de Dieu. Se soumettre au temps de Dieu, ça c'est le plus difficile pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit apprendre la patience. Dieu peut apprendre la patience, Dieu nous apprend la patience. Parce que Dieu ne va pas te dire comme ça, voilà, ta vision elle est là, tu rentres dedans, allez, vas-y. Au contraire, Dieu va dire, ben attends, moi je vais te former, je vais t'équiper. Parce que ta vision, tu as besoin d'apprendre tel ou tel domaine. Tu as besoin d'aller dans tel ou tel domaine. Tu as besoin de pouvoir développer tel ou tel domaine. Et mais pour ça, il va falloir du temps. Quand je vois les jeunes et je reviens à eux, quand j'entendais tout à l'heure qu'ils prophétisaient les uns sur les autres, ce n'est pas sur le principe de dire, tiens, bah, vas-y, amuse-toi, prophétise sur l'autre, c'est rigolo. Mais c'est vraiment de pouvoir apprendre cet apprentissage de la prophétie. Je vous rappelle que les dons dans la parole sont là à notre disposition, à nous de nous servir. À partir du moment où vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, allez-y. Allez-y. Entrez, servez-vous. C'est comme si on vous donnait, allez-y, c'est le bracelet, comme on dit, all inclusive. Merci Fred. Vous êtes all inclusive. Vous avez la possibilité, Dieu vous donne la possibilité, et il vous le demande, c'est de pouvoir rentrer dans cette pièce et de pouvoir vous servir. Et pour ça, il y a un apprentissage. Et l'apprentissage, il faut accepter de pouvoir se soumettre au temps de Dieu. Et donc, eh bien, ça va de pair, l'acheminement. Le cheminement par rapport à cette croissance est important. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir entrer dans sa vision. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir avoir une vision nette, claire, précise. Mais Dieu n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir demander à chacun ici, de pouvoir se placer devant lui et de pouvoir ouvrir ses oreilles. Dieu parle. Peut-être même que des fois, on a trop tendance à se placer devant Dieu et puis à parler, on prie, on prie, on prie, on prie. Et puis des fois, Dieu te dit, mais tais-toi. Écoute-moi un peu. Matthieu 17, 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Là, c'est quand les apôtres ont dit, mais pourquoi on n'a pas su chasser les démons dans ces personnes? Et donc Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là. Elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Se placer en Dieu, pouvoir avoir cette persévérance, de pouvoir dire, Seigneur, voilà, moi, ma foi, c'est ça qui va me permettre d'avoir de la persévérance. Tout est lié, hein. La dernière fois que j'ai prêché ici, j'ai prêché sur la foi, ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Parce que la foi est liée à la persévérance, et la persévérance est liée à la foi. Et à partir du moment où vous allez rentrer dans cette persévérance et dans cette foi qui va grandir, Dieu va parler. C'est indéniable, c'est incontournable. Dieu parle. On a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui veut et qui donne des directives. On a un Dieu qui ne demande que ça, mais dit attends, j'ai besoin de te parler, vas-y, viens devant moi et écoute-moi ce que j'ai à te dire. Matthieu, j'ai quelque chose de bien précis pour toi, vas-y, écoute-moi. Je vais juste accélérer. Hébreux 6, 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ça pourrait être ma conclusion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tout ce que je vous ai dit jusque maintenant, c'est résumé en deux versets, Hébreux 6, 11 et 12. Si vous voulez lire même je crois que c'est le chapitre 12 d'Hébreux qui parle de la persévérance. Lisez Hébreux 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Regardez, les mots sont forts, du zèle, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ne pas se relâcher. Que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je trouve superbe ce verset. Enfin, ces deux versets, puisqu'ils sont deux. Ils sont tellement importants pour pouvoir entrer dans la vision. Et pour ça, on a besoin de la persévérance. Je vais m'arrêter là, je vais vous montrer juste une petite vidéo. Ça dure 4 minutes, le temps passe. Dites-vous que votre vision, c'est un bocal de cookies. J'en dis pas plus. Mais grâce à votre persévérance, vous pourrez voir les choses. Non, fallait laisser, Alex. Faut juste cliquer sur la vidéo. Vas-y, remets en diaporama. Reviens à la dernière.
Voilà, tu cliques dessus. Clique sur la vidéo. Clique sur la vidéo.
Alex, clique sur la vidéo. Je pensais que mon micro marchait.
La souris est dessus. Bon, c'est pas grave, au pire. Je vous la montrerai une autre fois. Voilà. Je peux éteindre là. Ouais. Un peu de son. Oh, la fouille. Bien normalement. C'est pas fluide au niveau de l'image, tant pis. Ouais. Ça se fait que c'est pas fluide comme ça. Ça gâche tout le charme de la vidéo. Mais bon. En fait, cette vidéo, elle est là pour montrer la persévérance de ce petit cochon qui est rigolo. Parce qu'il souhaite absolument avoir le bocal de cookies en haut. Et en fait, on se rend compte pendant ces 4 minutes, qui sont longues, hein, c'est assez long, mais on se rend compte de la persévérance de ce petit cochon qui souhaite absolument ses cookies. Alors c'est vrai que je vous ai déjà, ou je nous ai déjà comparé à un bousier, désolé. Maintenant, je vais vous comparer à un petit cochon. Mais voilà, on se doit d'être persévérant. Ce petit cochon, il est là et il veut absolument ses cookies. Et on doit être comme ça, on doit avoir cette attitude d'humilité ou de persévérance devant Dieu, de pouvoir dire « Seigneur, moi, la vision, elle est là-haut, en haut du frigo, et je la veux, absolument. Et quoi qu'il arrive, eh bien, je vais persévérer, parce que je le veux, mon bocal de cookies. Je veux rentrer dans ma vision. » Je veux que ça soit aussi assuré. Bon, pour ceux qui veulent la voir en fluide, voilà, donc il a réussi. Jusqu'au bout. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais aujourd'hui, moi, ce que vraiment, si on devait revenir sur les différents points, notre vision, elle est là. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Dieu a une vision pour chacun d'entre nous. Quoi que les éléments aussi puissent nous dire, parce que des fois, on peut avoir une vision et on peut très bien la partager même à des gens qui sont en dehors de l'Église et qui vont nous prendre pour des fous. Ne nous arrêtons pas aux circonstances de la vie. Ne nous arrêtons pas au dire, au qu'en dira-t-on. Ne nous arrêtons pas à ce que notre esprit, même à nous, c'est-à-dire notre esprit, à notre nature charnelle, peut nous dire concernant cette vision. Parce que Dieu a déjà fait des choses tellement grande que d'un esprit humain ou d'un regard humain, on pourrait très bien dire « Mais non, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tellement de gens doutent de la parole, doutent de la parole de Dieu, de la Bible, parce qu'ils disent, mais non, ça, c'est pas possible. Lorsque Moïse a séparé la mer en deux, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui sont capables de vous prouver pourquoi la mer s'est ouverte en deux. Alors, soi-disant qu'il y aurait eu des circonstances qui font que, par les éléments, la mer... Non, on a un grand Dieu. On a un Dieu qui est capable d'ouvrir les mers en deux. À bien plus forte raison, il est capable de mettre une vision dans vos vies et de pouvoir vous mener là où vous allez y être. Parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de chacun ici d'entre nous. Et il veut, c'est pas le tout, est-ce qu'aujourd'hui on est membre d'une église ou est-ce qu'on est des disciples? Être membre d'une église, c'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce que Dieu veut, ce sont des disciples, des gens qui ont un travail pour lui, un travail saint, un travail qui va jusqu'au bout avec de la persévérance. Et à partir de ce moment-là, eh bien on pourra rentrer aussi dans des projets, des grands projets. Je les prends comme exemple parce que c'est vrai que c'est l'une des plus grosses églises de France. Et quand on voit des projets comme cela, et je l'ai dit à Samuel Peter Schmidt, je lui ai dit, écoute, pour nous, vous êtes un peu le point d'or. On vous regarde, on vous observe. On prie pour vous également, parce que vous êtes pour nous des gens qui ouvrez un peu la voie par rapport à ce qui va se passer dans d'autres métropoles. Parce que vous le vouliez ou non, Dieu souhaite envoyer un puissant réveil sur la France.
Amen.
Dieu va agir. On le voit, ça commence à venir. On voit déjà des choses qui bougent en France. Il y a beaucoup qui nous disent à l'étranger, mais ils prient pour la France parce que la France est un pays de mort spirituelle. Mais non, non. Si à chacun ici, on se lève, si chacun de nous avons un cœur pour Dieu, eh bien Dieu va d'abord réveiller nos cœurs pour réveiller son Église. Et des fois, quand il y a des personnes qui me disent, ou que j'entends des personnes qui disent, Seigneur, envoie le réveil. Vas-y, réveille-toi. Vas-y, réveille-toi. Et à partir de là, Dieu se servira de toi pour que tu puisses rentrer dans ce réveil. Quand on réveille Claudio la semaine dernière sur ce chantier, on était là au premier étage. C'est gigantesque, c'est magnifique ce projet. Et avec Claudio, on rêvait, on dit, mais bientôt à Lille, ça va bouger comme ça. Bientôt à Lille, on va voir des choses comme ça. Et moi, je veux croire que si on s'appelle le phare, ce n'est pas pour des clopinettes. Le phare, parce qu'on va être le phare dans la métropole de Lille.
Amen.
Et on va être la source dans la métropole de Lille. Les gens vont venir se ressourcer à la source et les gens vont voir le phare parce qu'on aura une action qui sera pour Dieu dans la métropole de Lille. Est-ce que vous croyez à ça? Seigneur Jésus, moi je veux vraiment voir ça, je veux vraiment voir ton œuvre, je veux vraiment voir, je veux que tu nous apprennes, Seigneur, encore plus comme les jeunes l'ont fait, que l'on puisse apprendre à entendre ta voix, que l'on puisse apprendre, Seigneur Jésus, à être guidé pour toi et par toi, Seigneur, que l'on puisse rentrer dans une vision, dans une œuvre, Seigneur Jésus, dans un service pour toi, que tu puisses montrer à chacun sa place, que tu puisses, Seigneur, nous donner de voir l'action de ton Saint-Esprit sur la métropole de Lille, Seigneur Jésus. Dernièrement, on priait même pour avoir le dixième de la population, mais on peut même en voir plus. Seigneur Jésus, moi, je veux voir la métropole de Lille se lever. Mais pour ça, il faut que tu aies une église qui soit glorieuse ici. Et Seigneur Jésus, moi, je veux proclamer une église glorieuse dans le phare et dans la source. On va être un peu égoïste, Seigneur, dans nos prières, parce que moi, je veux voir nos deux églises, Seigneur, qui se lèvent pour toi, être des églises qui vont travailler pour toi, être des églises qui vont avoir cette œuvre saine, Seigneur Jésus, avec des grands projets. Des grands projets. Et d'ailleurs, Seigneur Jésus, moi, je veux encore te remercier pour l'oasis que l'on a aujourd'hui, parce que c'est tellement un instrument que tu nous as donné, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui a permis qu'on puisse acheter cette maison, faire ces travaux. Et quand on voit ce qui se passe dedans aujourd'hui, eh bien, je te remercie, Seigneur. Parce que ce projet, il pouvait paraître immense à la base. Mais quand on voit, Seigneur, comment la vision est vite arrivée pour cette oasis, Seigneur Jésus, merci. Merci parce que l'église du phare et de la source va se lever. Et que tu puisses travailler, Seigneur Jésus, que tu puisses parler à chacun des cœurs ici ce matin. Et que tu puisses montrer, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, pour chacun ici d'entre nous. Certains le savent déjà, d'autres non. Mais Seigneur Jésus, tu vas nous permettre d'avoir cette croissance, de pouvoir mettre un pas après l'autre. Et de pouvoir, Seigneur Jésus, rentrer dans chacune de nos visions. Pour pouvoir avoir une équipe, une armée, Seigneur, qui sera glorieuse. Une armée qui sera équipée pour toi. Parce que chacun sera à sa place et chacun aura son travail. Et Seigneur Jésus, c'est là qu'on pourra se rendre compte eh bien, que tout va se coordonner. Parce que Seigneur Jésus, tu vas mettre chacune des personnes de chacune de nos églises à sa place. Et pour ça, je te rends grâce, Jésus. Amen.